Yes.
Now, how about showing them what I mean with, do you know what it means?
You want
to
do that,
Miss Orley?
Yeah, okay. Well, let's chirp it first, huh?
Do you know what it means?
Jazz Story. Luxie Bright vous raconte le jazz sous toutes ses formes. En novembre et décembre, écoutez nos 8 épisodes sur le free jazz, révolution musicale et esthétique. Le free jazz est un mouvement artistique aussi audacieux qu'il est hétérogène. Car qu'est-ce que le free, si ce n'est l'affirmation ultime d'un nouvel affranchissement musical, le rejet de formalisme normatif et de cloisons structurelles, afin de laisser place à une expressivité débridée. À chacun sa propre expression, à chacun sa propre liberté. Cette philosophie émancipatrice a bouleversé les codes musicaux du XXe siècle et ses répercussions s'étendent bien au-delà du monde du jazz. Dans cette série sonore, vous pourrez découvrir une musique unique et exigeante, retracée à travers une sélection d'albums qui ont marqué son histoire. Épisode 7, Unit Structures. Thank you.
Premières minutes de ce morceau vous ont fait mal aux oreilles, rassurez-vous, il n'en reste que 12. Nous écoutons le morceau éponyme de l'album Unit Structures de Cecil Taylor. Dès la première minute, on sait qu'on est très loin de toute forme conventionnelle de jazz. Le morceau ne démarre pas avec un thème, mais plutôt un travail sur la texture sonore. Le batteur Andrew Cyril crée un background rythmique sur lequel Taylor vient superposer des bruits de cordes frappées. Rentre le saxophoniste Jamie Lyons avec une phrase angulaire et saccadée, atonale. Ce n'est pas un thème, ni même un motif mélodique, juste une entrée titubante qui se conclut par une note aiguë acérée. Le son terreux de Ken McIntyre à la clarinette basse vient remplir l'autre extrême du registre. Puis, les deux contrebasses se rajoutent pour créer un bourdon granuleux, une véritable avalanche d'harmoniques. Taylor rentre avec une petite phrase mineure simple. Serait-ce enfin le thème ? Toujours pas, ou du moins pas vraiment. Plutôt l'esquisse d'une mélodie, que les vents reprennent et déforment. Puis enfin, quelque chose qui y ressemble à un thème, et même qu'il commence comme les feuilles mortes. Saxo et clarinette entrent ensemble, dans un unisson bancal, puis serpentent l'un autour de l'autre. Mais qu'en advient-il de ce thème ? Pas évident, car s'ensuit pendant plusieurs minutes une succession rapide de différentes ambiances sonores, différents rythmes, différentes couleurs et textures. On passe de cette cascade de notes à ce riff mingusien. Cette course-poursuite à la clarinette. Cet écho de balade. Cette tapisserie modale. Qu'en pensez donc de ce début de morceau ? Un désordre décousu, sans cohérence ? Pourtant, une écoute assidue révèle une logique interne à chaque unité thématique. Selon le célèbre critique allemand Eckhard Jost, Taylor substitue l'énergie au swing. Par cela, il entend qu'avec chaque phrase qu'impulse le pianiste, il génère un rythme, un micro-tempo, une dynamique précise et intentionnelle que le reste de l'ensemble doit suivre et émuler. La composition se construit par des unités structurelles qui se fondent l'une dans l'autre. Unit Structures. C'est le nom de l'album. Chaque unité sonore, une sorte de scène. Les changements constants entre chacune d'elles donnant un caractère presque cinématographique au morceau. Le critique Gary Giddens, qui a eu le privilège d'assister à des sessions d'enregistrement de Taylor, décrit ceci.
Having seen him work with a larger group, that's also fascinating. His sheet music is some strange zen-like thing which I won't even pretend to understand. I don't know how much the musicians do. But in the actual fact of the rehearsal, what I found was that he would play something. It was very little talk, but he would play something on the piano and expect Jimmy Lyons, the alto saxophonist, to mimic it. And then they would play it together. And then the bass player would come in. He would teach each person a part. That's Count Basie. That's the way Count Basie worked in Kansas City. He would play a little thing for the trumpets, a little thing for the saxophones, and they would create head arrangements of that. This is not that far removed. And it seemed, and suddenly I started to understand what he meant when he called one of his most famous recordings unit structures. Because the pieces were made up of these self-contained units that bled one to the next. But there was no say about how long each unit might be. So when you get to hear him recording the same piece, rehearsing it, playing it four or five times, you realize that in one performance, this unit, they may get done in 2 minutes and let's go over there, or they may really get into that and it may go 8 minutes before they switch.
Comme le dit Giddens, selon chaque performance, le groupe peut choisir spontanément de se concentrer sur une section, de l'élaborer et de l'étirer. Écoutons désormais la suite du morceau Unit Structures, où justement, le groupe se stabilise dans une certaine dynamique. Les vents prennent maintenant un solo tour à tour sur un rythme effréné, l'intensité maintenue à un niveau extrême par une section rythmique acharnée, et notamment un travail acrobatique tonitruant de Taylor, qui est la force motrice du groupe à chaque instant. C'est l'occasion aussi donc, s'il s'agit d'une première écoute de Taylor, de peut-être mieux mesurer toute l'adresse et le contrôle dans le jeu du pianiste. Cecil Taylor est réputé comme étant un artiste difficile à écouter. Il joue de manière très atonale. On n'a pas dans sa musique la même richesse mélodique rassurante que l'on trouve chez Ornette Coleman, par exemple. Et la longueur de ses performances peut être intimidante. Mais on ne peut tout de même qu'être émerveillé par sa virtuosité et sa technique ultra précise. Giddens à nouveau.
For a long time, he was considered a charlatan, which I think is, you know, just amazing, because I would think that anyone just watching him could see the digital precision, the fact that here's a guy who plays faster and looser than almost anybody you can think of, and yet his fingers never fall into the cracks. You know, you never hear those minor seconds that Thelonious Monk made famous. The fact that he will play something totally mind-bending, and then he will do it exactly the same way. So you know that this is a man who is completely in control, and there's a deliberation involved in everything he does.
Afin de mieux mesurer toute l'ingéniosité dans son style au piano, écoutons une de ses performances en piano solo. Voici un extrait de l'album Silent Tongues.
Cecil Taylor.
C'était donc Silent Tongues, enregistré live au Festival de Jazz de Montreux en 1974. L'album Unit Structures sort en 1966 et est souvent considéré comme le chef-d'œuvre de Taylor, même si, avec une discographie fleuve comme la sienne, il peut être difficile de faire un choix. Silent Tongues, Unit Structures, ce sont deux albums produits par un artiste mûr qui a su s'inventer un style, l'affirmer avec intransigeance et trouver les justes collaborateurs pour lui donner forme. Mais il est intéressant de retracer l'historique du parcours de Taylor pour se faire une idée de ce développement. Écoutons-le désormais interpréter un standard de Duke Ellington sur son album Jazz Advance. Thank you. l'album Jazz Advance, dont nous venons d'entendre un extrait, sort en 1956, 3 ans avant The Shape of Jazz to Come. La musique est très radicale à l'époque de sa sortie, et ne ressemble à presque aucun album contemporain. Le format de l'ensemble est celui d'un groupe de hard bop, batterie et contrebasse tenant plus ou moins le rôle conventionnel qui leur correspond dans un tel ensemble. Mais l'approche stylistique de Taylor est unique. Nombreux des éléments caractéristiques de son jeu sont déjà là au stade embryonnaire. Son goût pour l'atonalisme et la dissonance, la liberté rythmique et structurelle de ses improvisations, son utilisation de la polyrythmie et des sons conjoints, les clusters, ses bonds d'intervalle, ses envolées virtuoses, son jeu très physique et percussif au piano. Comment Taylor en est-il donc arrivé à développer ce style ? Il naît le 22 mars 1929 à New York et entreprend des études musicales au Conservatoire musical de la Nouvelle-Angleterre à Boston. Il y sera confronté à beaucoup de jazz, Horace Silver et Dave Brubeck influençant notamment son jeu. Mais sa formation est en classique. Influence d'impressionnistes comme Ravel et Debussy dans sa musique, mais ce sont plutôt des avant-gardistes européens qui font l'objet de ses études, des compositeurs comme Igor Stravinsky. Béla Bartók. Karlheinz Stockhausen. Désormais le morceau Serdab, extrait de Cecil Taylor Unit de 1978. Thank you. Taylor, avec son bagage théorique venu du classique et son style incomparable, apparaît donc comme une sorte d'extraterrestre au milieu des années 50, tout comme Ornette Coleman. Un iconoclaste que l'on ne sait pas exactement où situer. Et forcément, lorsqu'on nage contre le courant, cela cause de la friction. Et Taylor s'est souvent retrouvé confronté au rejet de ses pairs. Une illustration avec un extrait du morceau Shifting Down, issu de l'album Coltrane Time, l'unique collaboration entre le saxophoniste et Taylor. Trompettiste Kenny Dorham joue strictement dans l'idiome bop, alors que Taylor accompagne de manière oblique et dissonante. Leur mésentente symbolise en quelque sorte un choc des époques, Dorham incarnant les traditions du hard bop et Taylor les nouvelles directions que la musique allait prendre. Des directions que Dorham rejetait. Lui, qui ne comprenait pas la vision de cet artiste, qui cherchait à forger sa propre syntaxe musicale et refusait de se plier aux rigidités des conventions du genre et les définitions réductrices du métier d'improvisateur. Cecil Taylor nous a quittés cette année, le 5 avril 2018, à l'âge de 89 ans.
Jazz Story. Luxy Bright vous raconte le jazz sous toutes ses formes. En novembre et décembre, écoutez nos 8 épisodes sur le Free Jazz, Révolution musicale et esthétique, les lundis, jeudis et dimanches à 17h.